Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de test end-to-end et d'IA, du coup, comment on peut mêler les deux. Donc, pour rappel, un test end-to-end, il s'agit d'un test bout en bout qui va viser à reproduire les actions qu'un utilisateur réel peut mener sur votre application web, par exemple. Donc, typiquement, on a un site e-commerce avec un tunnel d'achat. On va sans doute vouloir avoir besoin d'un test automatisé qui simule le fait qu'on ajoute des éléments au panier, qu'on va jusqu'à la commande et peut-être même au paiement. Donc c'est des tests qui sont importants parce que ça reflète vraiment le comportement attendu par le métier auprès des utilisateurs. Et du coup maintenant aujourd'hui on va parler aussi d'un sujet avec l'IA. Mais avant ça, du coup ces tests-là end-to-end aujourd'hui, on peut les réaliser du coup en écrivant du code. Donc, il y a beaucoup de frameworks qui existent. On connaît Selenium. Maintenant, c'est plutôt Playwright qui est poussé, un outil poussé par Microsoft qui marche très très bien. Et aujourd'hui, du coup, on va vous présenter un POC qu'on a réalisé avec différents outils. On débrique qu'on l'ensemble les unes aux autres, qui change un petit peu quand même beaucoup la donne sur la façon de faire et la façon de lancer les tests end-to-end. Donc, l'idée en fait, ça va être d'utiliser un agent IA pour orchestrer des tests à notre place. Et du coup, enfin, les gains, ils sont assez immenses parce que en termes de gain de temps et d'accessibilité, selon les profils de l'équipe tech ou moins tech, tout le monde peut en faire un petit peu, quoi. Donc, concrètement, en fait, on oublie le fait qu'on doit écrire du code pour réaliser un test end-to-end de façon automatique. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser le langage courant, le langage naturel. Alors nous, on a quand même choisi de respecter une certaine structure du langage pour un test, pour un scénario de test, à savoir le format Gherkin. Donc c'est un standard dans l'industrie du test logiciel. Donc voilà, on n'a pas réinventé la roue, on a pris Gherkin. Donc du coup, on écrit nos tests comme aujourd'hui on peut le faire dans les projets hein, qui sont implémentés. On écrit un scénario de test au format Gherkin. Donc le Gherkin, en deux mots, c'est quoi? Ça définit des mots-clés pour identifier en gros le contexte, les actions et les assertions qu'on s'attend à voir. Par exemple, on peut dire, étant donné que je suis sur la page d'accueil de mon application web, quand je clique sur mon profil, je vois des informations à propos de mon profil. Voilà. Donc voilà, on écrit ce test au format de Gherkin, donc c'est du langage courant en français. Ensuite, cette structure de test, elle va être interprétée par l'agent IA, qui va le jouer en fait à notre place, en totale autonomie. Et sous le capot derrière, comment il fait? En fait, on utilise plusieurs skills différents. Donc les skills, c'est en fait des compétences. Donc c'est un concept qui a été poussé par Claude ces derniers mois et qui va décrire, OK, je te demande de faire ça, et du coup, comment je le fais? Donc, il y a des compétences et en plus un autre outil qui est sorti il y a quelques semaines qui s'appelle Playwright CLI. Alors, à ne pas confondre avec l'outil en ligne de commande du framework de test, c'est vraiment un outil qui est sorti fin janvier, je crois. Et du coup, toutes ces briques mêlées ensemble, ça permet de lancer un test de bout en bout sans avoir tapé la moindre ligne de code. Donc, petit focus sur l'outil dont je parle. Donc, Playwright CLI, c'est un outil conçu par Microsoft. Fait pour le framework de test Playwright. Donc Playwright, à la base, c'est un framework de test. Derrière, on peut le coder en TypeScript, en Python ou d'autres langages. Et du coup, Playwright CLI, c'est en fait une évolution de ce qu'ils ont fait en fin d'année dernière, en 2025, où ils avaient fourni un outil avec du MCP qui permettait aux agents IA, du coup, d'interagir avec des tests écrits avec le framework Playwright. Donc, quand je dis test écrit, c'est test codé, c'est du code. Pour par exemple soigner les tests, c'est-à-dire un test passe plus, je vais essayer de le mettre à jour parce que peut-être que mon application a changé, et peut-être que c'est le code du test qui est pas bon. Donc il permet d'automatiser une partie de ça, enfin en tout cas d'assister le développeur là-dessus. Et du coup, en fait, cette solution de MCP, ils ont remarqué que par rapport aux usages qui ont été faits, que c'était assez lent et vachement, enfin très gourmand en termes de consommation de tokens. Quand on utilise des agents IA, en fait, on consomme des tokens. Ça a un coût et du coup ils ont sorti un nouvel outil qui permet globalement de réduire cette consommation de tokens. Donc tout ça c'est écrit dans leur README, je mettrai le lien en description du post, vous pourrez le retrouver plus tard. Donc finalement, puisqu'il n'y a plus besoin de coder pour lancer un test end-to-end, et ben en fait le POC qu'on a réalisé il y a 3 semaines avec ces outils-là, au phare, ben, il déplace le curseur dans l'entreprise. Qui va piloter la qualité en fait maintenant? Ben, en fait, pour l'instant, on ne sait pas, mais ce dont on sait, et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui dans une équipe projet, n'importe quel profil, peut utiliser cet outil-là, sans avoir besoin forcément de comprendre comment il fonctionne derrière dans les rouages. Et donc du coup, que ce soit un PO, un PM, un développeur ou même enfin d'autres profils, tech ou pas tech finalement, chacun peut partager un même test exprimé en langage naturel et le lancer chacun de son côté. Pour du coup, par exemple, dans différents cas, c'est-à-dire que on a un bug qui est apparu sur telle feature, et bah ok, je sais que telle feature elle marche comme ça parce que j'ai des tests qui ont été rédigés en langage naturel au format Gherkin. Donc chacun peut demander à l'agent de ok, dis-moi si c'est vraiment cassé, ou dis-moi pourquoi ce serait cassé, ou reproduis le bug finalement. Donc l'idée c'est que on utilise finalement un langage commun sans avoir coder des choses pour tester en fait notre application. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, du coup, quand on lance le test end-to-end, on reste pas à coller devant l'écran pour voir ce que l'agent fait. L'agent, il le fait de manière autonome en arrière-plan. Donc derrière, en fait, Playwright, il utilise un mode qui s'appelle le headless, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la fenêtre du navigateur en premier plan sur son ordinateur, mais c'est tout comme, sauf que c'est fait en arrière-plan. Donc du coup, on peut très bien travailler en asynchrone avec ça. Et c'est ce qui nous fait des gains de temps du coup, parce que du coup, on est là pour plutôt décider et interpréter ce que l'agent nous dit, mais on n'est plus là pour en fait faire des clics qui sont très laborieux et enfin que personne n'a envie de faire pour reproduire un bug ou tester un truc qui fonctionne bien aussi. Voilà. Donc tout le monde peut participer à lancer le test end-to-end. Et du coup, une question qui est légitime, hein, qui se pose en ce moment, c'est quoi le compromis entre lancer des tests end-to-end avec, enfin pilotés par les agents à partir d'un test écrit en langage courant, ou alors d'utiliser des scripts, donc de continuer à utiliser du code pour tester notre application. Bah, la réponse, c'est encore bah, un peu des deux, ça dépend des contextes. Là, depuis 3 semaines où du coup on commence à s'approprier cet outil-là, il y a différents cas. Sur les cas où on a des projets où les tests, on a déjà des tests end-to-end qui sont codés, on va plutôt l'utiliser pour du coup interagir avec la base de code de test pour les tenir à jour, ou alors en ajouter, les modifier. Parce que du coup, ce qui est important, c'est que l'agent, quand il va faire quelque chose que vous demandez, si vous n'avez pas de code déterministe derrière, bah déjà de 1, il est moins déterministe que un script, c'est sûr. Et en plus, j'ai perdu mes mots. Et en plus, voilà, l'agent sera toujours plus lent qu'un script qui va être exécuté. Donc, quand vous avez des tests qui sont codés, il faut les maintenir à jour. Et pourquoi pas utiliser l'agent pour les tenir à jour. Mais par contre, dans les projets où on n'a vraiment aucun test end-to-end qui est codé, et bah plutôt, enfin, généralement, quand on l'a pas, c'est qu'en fait, on ne prend pas le temps de le faire. Peu importe la raison, on n'est pas là pour débattre de ça. Mais du coup, avec cet outil-là de Agentic, en fait, n'importe qui peut bah, automatiser l'exécution d'un test end-to-end en prenant 5 minutes pour écrire le test en langage courant et sans prendre 1 heure à quelques jours pour l'automatiser via un script et à le maintenir. Donc là, ça a une vraie valeur ajoutée sur les projets sur lesquels en fait on n'a pas de base de code de test. Donc j'ai fait un petit tableau qui compare grosso modo les deux solutions, donc une solution basée full agent ou assez classique que des scripts pour les tests end-to-end. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que du coup l'agent c'est hyper flexible, il y a très peu de maintenance à faire, si ce n'est mettre à jour bah, le test en langage naturel. Donc finalement c'est un peu votre user story. Alors que le script, du coup une fois qu'il est codé, et bah, si l'application change par exemple, et bah, le script il doit être mis à jour parce que peut-être que le CTA a changé sur la page, donc faut le mettre à jour. En termes de vitesse, par contre, bah, l'agent, comme j'ai dit, il est hyper lent. Mais bon, vu qu'il peut être fait de manière asynchrone, et tant qu'il n'est pas mis dans la chaîne de déploiement, ça pose pas de problème en fait. Il peut être lent, mais en fait, ça me fait gagner du temps parce que je fais autre chose à côté. Alors que là, le script, il sera toujours rapide et intégré dans la chaîne de production, enfin de déploiement, parce qu'il est rapide, notamment. En termes de coût, alors on pourrait dire que l'agent IA, là, il est plus coûteux que le script traditionnel, mais là, je tiens compte que de l'exécution. Mais toute la partie réalisation du test, là, enfin réaliser un script, c'est beaucoup plus coûteux que le réaliser via l'agent IA parce que l'agent IA, vous prenez 5 minutes, comme je disais, à écrire votre test en format Gherkin. Alors que le script, il faut le coder. Il faut comprendre l'expression du test, le faire, le tester, etc., etc., l'automatiser. Et puis, point le plus important, du coup, je rappelle, c'est la partie déterministe. Donc, l'agent IA, oui, ce n'est pas déterministe, mais du coup, comment on fait dans les équipes? Vu que l'agent IA, il peut me dire, ton test que tu m'as demandé, il est passé. Mais comment est-ce qu'on lui fait confiance? Au début, non. Du coup, là, en ce moment, ce qu'on lui demande dans les équipes, sur différents applicatifs, c'est de nous fournir des preuves en cas de succès et d'échec. Alors que d'habitude, sur, par exemple, des scripts, enfin, des tests end-to-end qui sont scriptés, on va demander de fournir la preuve que quand, le test échoue. Donc, la preuve, ça peut être différents formats. Ça va être la vidéo du scénario qui a été exécuté, ou alors la trace de toutes les actions qui ont été faites, ou aussi différents captures d'écran à différents moments du test. Et là, du coup, en ce moment, on demande à l'agent à la fin de nous fournir le replay du test qu'il a fait. Donc, du coup, plutôt que de prendre le temps de cliquer moi-même, de trouver les identifiants de connexion sur une pré-prod, de répéter ce qu'on peut faire tous les jours. Eh ben on consulte simplement le replay du test qu'il a fait avec le rapport qu'il fournit. Et c'est assez amusant d'ailleurs parce que du coup, sur un scénario de test qui vise à tester la connexion à un espace client, l'agent IA, en fait, il est capable d'interpréter automatiquement ce que avant, en fait, seul l'humain pouvait faire. En fait, c'est un écran de connexion qui est protégé par un Google ReCAPTCHA. Donc en gros, on protège l'écran de connexion des robots. Et en fait, l'agent IA, quand il lance le test en autonomie, eh ben, il est confronté à un problème, c'est que du coup, l'application le rejette parce qu'effectivement, c'est un robot. Donc quand l'agent essaie de se connecter, il rencontre le message d'erreur, connexion impossible, vous avez été détecté en tant que robot, quoi. Mais du coup, en fait, là où le script aurait dit le test échoue parce que j'ai pas réussi à me connecter. L'agent IA, il va dire, OK, j'ai essayé de lancer le test que tu m'as décrit, et par contre, j'ai pas validé ce que tu attendais, c'est-à-dire que en fait, j'ai pas passé l'écran de connexion, je suis pas sur ma page d'accueil de mon profil, par exemple, je me suis heurté à un message d'erreur qui dit que j'étais détecté comme un robot, mais du coup, l'agent qu'on a fait sur le POC, il est capable de dire automatiquement dans son rapport de fournir une première interprétation. Ça a échoué, mais en fait, parce qu'il y a une protection contre les robots, et vu que je suis un agent. Et c'est logique ce message d'erreur est logique, mais du coup, généralement, la seconde fois, ça passe, et puis du coup, il réessaie le test, et du coup, la protection robot, là, ne marche pas tous les coups, et du coup, il peut passer. Et du coup, il dit, bon, j'ai essayé une fois, puis deux, puis trois, et c'est passé la troisième fois, et les deux premières fois, quand c'est pas passé, c'était que j'étais détecté en robot, donc finalement, on peut dire que le test, il passe, quoi. Donc, c'est pas mal de valeur ajoutée aussi sur fournir une première phase de l'interprétation du résultat des tests. Parce qu'aujourd'hui, tous les tests qu'on peut faire, notamment sur le projet avec Playwright, avec des scripts TypeScript, ils fournissent des rapports qu'on upload sur des outils de reporting comme Allure TestOps. Mais du coup, il y a toute la partie interprétation de pourquoi un test a échoué, est-ce qu'il est flaky, pourquoi. Et en fait, aujourd'hui, c'est les développeurs, les QA testeurs qui la réalisent. Et ça, c'est à chaque fois qu'on veut shipper en prod. Donc plus on veut shipper en prod, plus on va devoir le faire. Et donc là, l'agent, il peut réduire cette phase de temps où on passe à interpréter les résultats de test end-to-end aussi. Et donc augmenter notre vélocité. Voilà, donc j'étais un peu bavard, mais pour conclure, ce qui est génial avec ce POC, c'est que en utilisant des briques simples aujourd'hui, donc Privately, des agents IA, que ce soit Claude, Mistral, ce que vous voulez, en fait, on peut rendre accessible le fait de lancer en autonomie des tests end-to-end à n'importe qui dans une équipe, du moment qu'on sait rédiger un test au format Gherkin. Et là, il suffit de prendre 15 minutes pour lire la doc de Gherkin. On sait comment structurer son test en langage courant. Voilà. Je vous remercie de votre attention et puis je mettrai toutes les références en description du post. Et je vous souhaite une bonne journée. À plus tard.